Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Apprendre le français en France, c'est ce que propose à 4000 étudiants francophones venus du monde entier le Cavilam, dans la belle ville thermale de Vichy. L'Institut français a souhaité lancer en 2012 un programme innovant dans l'apprentissage de la langue française, Culture Lab. Canal Académie vous propose une série de 4 émissions qui vont vous permettre de suivre le travail accompli dans les classes du Cavilam par les étudiants enrôlés dans ce beau programme nouveau, Culture Lab, lancé par l'Institut français. Canal Académie accueille devant ses micros Michel Boiron. Bonjour, bonjour. Michel Boiron, vous êtes directeur du Cavilam. Michel Boiron, parlez-nous de cette nouvelle aventure vécue au Cavilam, une aventure qui porte un joli titre, Culture Lab, une mission qui vous a été confiée par l'Institut français. Racontez-nous.
Tout à fait. Alors, l'Institut français donc est chargé de la promotion de la langue française et de la promotion de la culture française. Et parmi les nouveaux programmes de promotion, il y a donc Culture Lab. Culture Lab, l'idée est simple, c'est réunir des jeunes étrangers qui sont en formation linguistique et en même temps professionnels et qui viennent donc dans divers lieux en France pour suivre une formation, encore une fois, à la fois linguistique et professionnelle. Donc, il y a eu des programmes qui sont centrés sur le cinéma, sur l'organisation de festival, sur l'écriture. Et donc, il a été confié au Cavilam deux thématiques pour travailler sur le débat d'idées en français. Donc, deux thèmes ont été retenus. Le premier thème, c'était démocratie et droits de l'homme, faire réfléchir, en fait, au sens de ces mots et à leur réalité, à la fois en France, mais aussi, évidemment, dans les pays des stagiaires qui sont venus chez nous. Et le deuxième thème qui a été proposé, c'était les enjeux de la France aujourd'hui, enjeux nationaux et internationaux. Alors, effectivement, on a retrouvé dans les deux programmes, au total, c'était presque une quarantaine de jeunes venus de près de 17 nationalités, ou même exactement 17 nationalités, des jeunes qui se sont retrouvés et qui ont à la fois parlé effectivement de la France, parlé de ces thématiques, et en même temps pu échanger entre eux, dans leurs différentes cultures, ce que ça voulait dire.
Alors, Canal Académie a suivi de très près cet échange francophone et ce travail opéré par ces étudiants venus des quatre coins du monde, puisque nous étions dans vos classes, Michel Boiron, classe du Cavilam, où ces jeunes filles se sont mises au travail sur ces grands thèmes. Alors, apprendre le français perfectionné de jeunes étudiants francophones à parler, à s'emparer de ce beau véhicule qu'est la langue française, ça, le Cavilam sait le faire depuis des années. Cette mission était nouvelle par rapport aux thématiques choisies.
Alors c'est vrai, cette mission a été une nouvelle parce que, pour une fois, on n'organisait pas la classe à partir des niveaux linguistiques, mais à partir d'une thématique choisie, donc encore une fois, démocratie et droits de l'homme ou les enjeux de la France. Et ceci faisait tout à fait partie de ce qu'on pourrait appeler la mission éducative du Cavilam Alliance Française, qui est vraiment centrée sur la rencontre. Alors rencontre, bien sûr, de la langue française et la pratique de cette langue française, mais aussi rencontre entre les jeunes. Je dirais que lorsque les jeunes viennent à Vichy, au Cavilam, ils ont une double expérience fondamentale. La première, c'est évidemment la rencontre et l'immersion dans la langue française, puisque en dehors des cours, ils sont logés également en famille d'accueil, ce qui est très important. Ils vivent la vie quotidienne des Français. Mais en même temps, ils rencontrent des jeunes qui viennent du monde entier et qui, comme eux, apprennent le français. Donc à la fois, c'est ce que je signalais tout à l'heure, il y a cette vision de la France, cette découverte de ce milieu francophone, mais en même temps, la découverte des autres. En résumé, apprendre le français, ça sert non pas à découvrir seulement la France, mais ça sert à découvrir le monde.
Alors, grâce aux émissions que Canal Académie a pu réaliser sur le terrain, monter et qui sont maintenant diffusées sur nos ondes, nous allons pouvoir suivre dans un instant le travail, comme si nous y étions, de toutes ces étudiantes. Mais maintenant, le résultat. Nous enregistrons cette interview, cher Michel Boiron, après l'enregistrement de ce travail effectué au Cavilam, dans vos classes, par ces élèves. Le résultat de Culture Lab 2012.
D'une part, en dehors de la rencontre, on dit souvent qu'il y a beaucoup d'histoires d'amour au Kavilam Alliance Française. Dans la réalité, il y a beaucoup d'histoires d'amour, mais il y a surtout de grandes histoires d'amitié. Et les personnes qui se rencontrent développent souvent des amitiés durables, ce qui est très important. Le résultat de ce programme, c'est en dehors de l'acquisition linguistique, en dehors des éléments culturels que les personnes ont acquis, c'est aussi un élément professionnel, puisqu'ils ont appris ensemble à créer une émission radio. Par exemple, la radio, en général, c'est pas seulement de l'oral, c'est de l'écrit qui est oralisé. Ils ont appris également à créer un livre électronique. Donc, ça, ce sont les résultats concrets qu'ils ont emportés.
Et Culture Lab, grâce à l'Institut français, grâce au Kavilam, grâce à Canal Academy, a pu faire en sorte que ces jeunes venus des quatre coins du monde échangent sur des thèmes qui les intéressent. La génération Y, on a parlé de multiples sujets qui sont dans leur vie au quotidien, eux qui vont former les générations futures.
Bien, c'est sûr. Et bien maintenant, écoutons leur participation.
Merci Michel Boiron.
Merci à vous.
Ces voix féminines, elles sont 16, venues des quatre coins du monde. Elles ont travaillé autour d'un texte de Michel Serres de l'Académie française, et des extraits justement de ce texte vous seront lus tout au long de cette émission sur Canal Académie. Petite poussette, c'est ainsi que l'académicien malicieux Michel Serres désigne ainsi, petit pousset, petite poussette, les jeunes gens d'aujourd'hui qui utilisent leurs deux pouces, vous savez, pour se servir de leur console vidéo, pour envoyer leurs textos, leurs tweets, etc. Donc, l'académicien a prononcé en séance à l'Institut de France, c'était le mardi 1er mars 2011, ce texte, Petite Poussette, dans le cadre d'un thème, les nouveaux défis de l'éducation, un thème qui s'accorde donc parfaitement bien avec les objectifs du Kavilam. Ce texte commence par la phrase suivante.
Avant d'enseigner quoi que ce soit à qui que ce soit, au moins faut-il le connaître. Qui se présente aujourd'hui à l'école, au collège, au lycée, à l'université ?
Eh bien, nous allons nous faire l'écho de Michel Serres en posant maintenant la question : qui se présente aujourd'hui au Kavilam, dans ce centre d'approche vivante des langues et des médias ? Nous allons le savoir tout de suite en compagnie d'une étudiante originaire du Ghana, Salomé, qui va présenter et animer pour vous, auditeurs de Canal Academy, un échange de pensées, de réflexions autour du thème « Les enjeux de la France ». Voilà, nous sommes maintenant dans une classe du Kavilam en compagnie de 16 étudiantes. L'une d'entre elles a pour prénom Salomé. Bonjour Salomé.
Bonjour.
Nos auditeurs vont pouvoir constater, Salomé, que vous parlez superbement le français. Alors racontez-nous quel est votre pays d'origine et quelles études menez-vous actuellement?
Alors, je suis originaire du Ghana, mais j'ai vécu la plus grande partie de ma vie au Sénégal. Je viens de terminer 4 ans d'études à l'Université du Ghana, licence en espagnol et en informatique.
Et alors maintenant, Salomé, vous allez nous parler de Culture Lab. Rappelez-nous ce qu'est Culture Lab.
Donc, je participe au projet Culture Lab et je vais vous présenter un débat sur les enjeux de la France, préparé avec toutes les étudiantes de ce programme d'échange francophone. Culture Lab, c'est un projet de l'Institut français du Kavilam de Vichy et de Canal Academy. Il réunit des étudiantes de différentes nationalités. Et notre devoir de vacances cette année, ça a été d'observer d'un regard attentif la société française sous plusieurs facettes.
Parlez-nous de ces différentes facettes, Salomé.
D'abord, nous allons aborder la question de la francophonie qui nous touche tout particulièrement. Ensuite, la question de la jeunesse et de l'éducation, puis celle de la famille et de la société en général. Et enfin, les valeurs de la devise française, liberté, égalité, fraternité. Le texte de Michel Serres de l'Académie française a donc nourri notre réflexion et nous a fait réagir à ces thèmes qui nous motivent parce qu'ils nous concernent. Je vais donc maintenant vous présenter les étudiantes qui ont participé à cette réflexion. J'accueille en premier Yamour. Bonjour Yamour.
Bonjour Salomé, je m'appelle Yamour, j'ai 23 ans. Je suis diplômée dans le département de la langue et littérature française. Je viens de Turquie. Ma rencontre avec la langue française a commencé avec les auteurs et les chanteurs français. Le premier livre que j'ai lu, c'était « Les rêveries du promeneur solitaire » de Jean-Jacques Rousseau, mais je l'ai lu en turc. Et ensuite, je me suis dit, je dois apprendre la langue française et lire des livres et des auteurs français dans le texte et comprendre le sens de chansons françaises. Parce que, d'après moi, le français est une langue très mélancolique et mélodique. C'est la première fois que je suis venue en France. Le programme de Culture Lab m'a donné l'occasion de progresser, d'apprendre la culture et les enjeux de France. Je suis très heureuse d'être ici.
Et avec toi, il y a Véronica. Bonjour Véronica.
Bonjour, je suis Véronica et je viens des États-Unis. J'ai rencontré la langue française quand j'ai commencé à danser. Quand j'avais 14 ans, j'ai commencé d'étudier français à l'école. Comme étudiant, je suis tombée amoureuse des grands artistes, philosophes, chanteurs et écrivains français, Renoir, Edith Piaf, Voltaire, Jules Verne. En même temps, je pense que c'est très important d'apprendre plusieurs langues si possible. Donc, je parle polonais avec ma famille comme langue maternelle, je parle anglais avec mes amis et j'étudie français. Apprendre une langue comme le français, c'est une occasion de comprendre la culture. Avec une connaissance de la langue et de la culture française, je vais avoir la chance de visiter le Sénégal, de regarder des grandes peintures au Louvre ou d'étudier dans les universités françaises comme la Sorbonne. Comme un étudiant d'économie et de la littérature d'anglais et de français, j'espère devenir un éditeur ou un professeur dans une université. Dans ma vie professionnelle, j'espère que j'aurai l'occasion de voyager beaucoup, peut-être comme traductrice, écrivain ou un diplomate. Donc la langue française sera très utile pour voyager et travailler tout le monde francophone.
Et avec toi, on a Hilal. Bonjour Hilal.
Bonjour Salomé, je viens également de Turquie. J'ai 22 ans, je suis étudiante traduction et interprète française. Donc je voudrais bien être traductrice de langue française à l'avenir. J'aime apprendre les langues étrangères. J'ai commencé à apprendre le français au lycée. La langue française est très belle et très rythmique.
Et enfin, nous avons, pour compléter ce groupe, Judith. Bonjour Judith.
Bonjour Salomé. Je suis Judith, je suis argentine. J'ai découvert la langue française de mon enfance parce que mes arrière-grands-parents étaient de nationalité française. Ils sont allés en Argentine en quête d'un meilleur avenir. Je suis donc tombée amoureuse du français parce que ma mère me parlait beaucoup de l'histoire, de la langue, de la culture parmi tant d'autres. Aujourd'hui, j'étudie la langue française pour devenir professeur de FLE, français langue étrangère, en Argentine.
Les idées et les réflexions dont l'académicien Michel Serres a nourri son texte, qu'il a intitulé « Petite poussette », ont servi de base au partage d'idées qui s'est donc établi entre les jeunes francophones venus du monde entier grâce au programme Culture Lab organisé par le CAVILAM. La voix de Michel Serres va donc accompagner et ses idées vont rythmer ce bel échange francophone.
Ils ne parlent plus la même langue. Depuis Richelieu, l'Académie française publie à peu près tous les 20 ans, pour référence, le dictionnaire de notre langue. Au siècle précédent, 4 pour dire vrai, la différence entre deux publications s'établissait autour de 4 ou 5 000 mots, à peu près constants dans les siècles. Entre la précédente publication et la prochaine, la différence sera exactement de 27 000 mots. À ce rythme, on peut deviner qu'assez vite, nos successeurs pourraient se trouver demain aussi séparés de notre langue que nous le sommes aujourd'hui de l'ancien français pratiqué par Chrétien de Troyes ou par Joinville. Ce gradient donne une indication quasi photographique des changements que je suis en train de décrire devant vous. Cette immense différence qui touche toutes les langues tient en partie entre les métiers des années récentes et ceux d'aujourd'hui.
petite Poussette et son ami ne s'évertueront plus aux mêmes travaux. La langue a changé, les labeurs ont muté.
Véronica, quelle est la place de la francophonie dans ce monde moderne et hyper technologique?
Selon moi, la francophonie signifie la solidarité entre les peuples autour d'une langue qui représente la diversité de ces peuples. Je pense que même si notre monde moderne change très rapidement, la langue occupe une place d'importance. Bien sûr, aujourd'hui, l'anglais devient une langue mondiale et cela semble poser un problème au français. Mais, selon moi, le français est plus qu'une langue. Comme une organisation, la francophonie préserve les traditions, l'histoire et la culture des pays francophones. Comme le dit le poète Aimé Césaire, le français est capable d'évoluer et de s'adapter à l'époque. Donc, la francophonie existe encore parce que les gens partout le monde reconnaissent l'importance de maintenir sa langue et sa culture. En même temps, ils s'adaptent à une société qui change.
Donc, selon toi, Hilal, quelle est la signification du mot francophonie?
Selon moi, le francophonie fait référence au fait de parler le français et aussi aux différents lieux. C'est aussi le partage de certaines valeurs.
Et à présent, je me tourne vers Yamour. Yamour, quelles valeurs peux-tu évoquer?
Être la francophonie, c'est être différent mais ensemble. C'est la nécessité pour les francophones de se reconnaître les unes les autres. C'est accepter les différentes cultures et de s'enrichir de cette diversité.
D'accord, Yagmon. Peux-tu faire une différence entre une francophonie avec un F minuscule et un F majuscule?
Ah, bien sûr. Le mot de francophonie a été inventé par Onésime Reclus en 1895. La francophonie avec un F minuscule correspond aux gens qui parlent français et aux lieux où l'on parle français. Et avec la francophonie avec un F majuscule, signifie l'Organisation internationale de la francophonie qui est une institution fondée sur le partage d'une langue et de pensées communes. Le plus important est de partager cette langue et ses idées au quotidien en acceptant la diversité des différentes formes de français.
Maintenant, Judith, pour toi Judith, quel est le but poursuivi par la francophonie?
Pour moi, le but de la francophonie avec un grand F majuscule, c'est-à-dire de la OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, c'est de créer un espace de solidarité dans l'humanisme, dans la démocratie et dans le respect de la diversité des cultures. J'ai dit la solidarité, c'est avant tout pour soutenir les pays francophones les plus défavorisés et pour avoir une écoute attentive des besoins des populations des pays moins développés.
À présent, j'accueille un second groupe avec tout d'abord Alejandra. Bonjour Alejandra.
Bonjour Salomé.
Pourrais-tu te présenter un petit peu et nous parler de ta rencontre avec le français?
Bien sûr. Bon, je m'appelle Alejandra Armenta, j'ai 25 ans, je viens du Mexique et je suis étudiante en anthropologie sociale à l'École nationale d'anthropologie et histoire à Mexico. Pour moi, la langue française représente un moyen qui me permet de me rapprocher des autres, c'est-à-dire de leur pensée et de leur façon de se connaître eux-mêmes. Pour moi, le français est un outil et c'est moi qui lui donne vie lorsque je rencontre d'autres francophones ou quand je lis un livre ou je regarde un film en français. Ce qui m'a incité à apprendre la langue française a été un voyage merveilleux que j'ai fait à Montréal il y a 5 ans. C'était une expérience qui a bouleversé ma vie parce que j'ai tellement aimé la ville et le fait de vivre en parlant la langue française que j'ai pris la décision un jour de partir au Québec comme résidente permanente. Pour finir, je dirais que la langue française fait déjà partie de ma vie et qu'elle a une présence et une place essentielle pour mon projet de vie et mon avenir professionnel.
Et avec toi, nous avons Angela. Bonjour Angela.
Bonjour Salomé.
Présente-toi, s'il te plaît.
Oui, bien sûr. Je m'appelle Angela et je viens de Serbie. Voilà, en travaillant sur le livre multimédia ici au Kavelam, on a eu comme devoir de faire une comparaison entre la langue française et quelque chose d'autre. Et voilà la phrase que j'ai inventée. La langue française est comme une femme fatale. Elle nous pose des problèmes, mais on l'aime quand même. C'est exactement comment je la trouve. Parfois, elle est compliquée, elle est difficile. Mais néanmoins, il existe un grand amour qui nous encourage à la découvrir, la connaître le mieux possible. C'est grâce à sa sonorité et douceur que je l'ai choisie. Maintenant, je peux admettre que j'attends avec impatience le mois d'octobre quand je commencerai à faire mes études de langue française à la faculté des lettres. Concernant l'avenir, j'espère devenir traductrice un jour.
Donc, nous avons également Tutku. Bonjour Tutku.
Bonjour Salomé, je m'appelle Tutku et je viens de Turquie. En fait, ma rencontre avec la langue française a eu lieu quand j'ai décidé d'aller à une université francophone à Istanbul pour étudier les sciences politiques. C'était plutôt la qualité académique de l'université qui m'a donné la motivation d'apprendre le français, donc je peux dire que mes objectifs étaient plutôt professionnels. Mais aujourd'hui, ce que m'a apporté d'être francophone est vaste. J'ai connu une nouvelle culture, celle des grands hommes comme Rousseau, Voltaire, Hugo, et aussi des grandes femmes comme Simone de Beauvoir, Camille Claudel, Hélène Cixous. Je peux lire par exemple Michel Foucault dans le texte, qui rend les choses plus efficaces parce qu'il y a toujours quelque chose qui est perdu dans les traductions. Et ça me donne aussi l'occasion de voyager, de faire de nouvelles rencontres, ce qui est le cas ici par exemple au Kavilam Culture Lab. Et j'espère qu'être francophone va me donner aussi l'occasion de suivre mes études supérieures en France, où les conditions de faire une recherche scientifique sont meilleures qu'en Turquie.
Et pour finir, nous avons Thun. Bonjour Thun.
Bonjour Salomé, je m'appelle Thun et je suis thaïlandaise.
Pourrais-tu te présenter, s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Ma famille est une famille de bilingues. Mon père et ma mère parlent thaï et anglais. Mon frère parle généralement les deux et une autre langue comme le japonais, mais toutes les trois ne sont jamais allées sur le lieu d'originaire de ces langues, sauf la langue thaï parce qu'on le parle toujours. Alors, je me suis décidée de venir en France pour apprendre le français et avec les vrais français. Et dans l'avenir, je vais étudier à faculté de sciences humaines avec pour langue principale de français et aussi les sciences politiques.
Ce deuxième échange d'idées va porter sur la jeunesse actuelle. Petit pousset, petite poussette, comme les appelle Michel Serres, car pour utiliser la console vidéo ou envoyer un texto, vous le savez, les nouvelles générations sont très expertes avec leurs deux pouces.
Ils sont désormais formatés par les médias, diffusés par des adultes qui ont méticuleusement détruit leur faculté d'attention en réduisant la durée des images à 7 secondes et le temps des réponses aux questions à 15 secondes, chiffres officiels, dont le mot le plus répété est « mort » et l'image la plus représentée, celle des cadavres. Dès l'âge de 12 ans, ces adultes les forcèrent à voir plus de 20 000 meurtres. Ils sont formatés par la publicité. Comment peut-on leur apprendre le mot « relais » qui en français s'écrit « AIS » alors que dans toutes les gares il est écrit « AY » Comment peut-on leur apprendre le système métrique quand le plus bêtement du monde la SNCF leur fourgue des smiles. Les enfants dont je parle habitent donc le virtuel. Les sciences cognitives montrent que l'usage de la toile, lecture ou écriture au pouce des messages, consultation de Wikipédia ou de Facebook n'excite pas les mêmes neurones ni les mêmes zones corticales que l'usage du livre, de l'ardoise ou du cahier. Ils peuvent manipuler plusieurs informations à la fois. Ils ne connaissent, ni n'intègrent, ni ne synthétisent comme nous leurs ascendants. Ils n'ont plus la même tête. Par téléphone cellulaire, ils accèdent à toute personne. Par le GPS, en tout lieu. Par la toile, à tout le savoir. Ils habitent donc un espace topologique de voisinage, alors que nous habitions un espace métrique référé par des distances. Ils n'habitent plus le même espace. Sans que nous nous en apercevions, un nouvel humain est né, pendant un intervalle bref, celui qui nous sépare en gros des années 70. il ou elle n'a plus le même corps, la même espérance de vie, ne communique plus de la même façon, ne perçoit plus le même monde, ne vit plus dans la même nature, n'habite plus le même espace. Né sous péridurale et de naissance programmée, ne redoute plus sous point palliatif la même mort. N'ayant plus la même tête que celle de ses parents, il connaît autrement. Il ou elle écrit autrement. Pour l'observer avec admiration, envoyer plus rapidement que je ne saurais jamais le faire de mes doigts gourds, envoyer, dis-je, des SMS avec ses deux pouces, je les ai baptisés avec la plus grande tendresse que puisse exprimer un grand-père, petite poussette et petit poussé. Voilà leur nom, plus joli que le vieux mot pseudo-savant de dactylo.
À présent, nous pouvons passer à notre débat. Donc, Tutku, je vais commencer par toi. On parle aujourd'hui de la génération Y, ou Generation Y. Que comprends-tu par cette appellation de la jeunesse actuelle et qu'entraîne-t-elle dans la société française ?
La génération Y, qui vient après la génération X, est tout d'abord la génération du multimédia. On est passé de l'âge informatique à l'âge du multimédia, où toutes les connaissances, toutes les informations sont accessibles sur nos téléphones portables avec l'avènement des smartphones. Mais on peut aussi se poser la question, comment arriver à se servir de cette connaissance infinie ? On ne le sait toujours pas. Dans le passé, les sociologues qui étudient les jeunes avaient tendance à parler des jeunesses au pluriel qui étaient socialement différentes les uns des autres, alors qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, il s'agit plus de rapprochement entre ces différents groupes. En effet, ils ne trouvent pas leur place dans la société, leur confort matériel va de pair avec un inconfort moral, leur confiance en l'avenir, leur confiance dans les adultes et leur sentiment d'appartenance diminuent. En bref, on peut dire qu'il s'agit d'un pessimisme chez les nouvelles générations.
Donc, Toon, quels sont les changements les plus importants dans la jeunesse française selon toi?
Selon moi, les grands changements mondiaux apportent des problèmes à la jeunesse partout dans le monde, et plus particulièrement à la jeunesse française. Comme nous le savons déjà, le taux de natalité a diminué car les parents français travaillent beaucoup. Ils ont très peu de temps pour eux-mêmes. Et même s'ils ont du temps d'avoir des enfants, ils les ont très très tard, créant ainsi un fossé entre eux et leurs enfants. En effet, l'éducation, les connaissances que les parents ont reçues diffèrent de celles que recevront les enfants. Dans un monde qui évolue très vite, c'est ce que Michel Serres souligne notamment dans son texte. Bien sûr, les jeunes apprennent de nombreuses choses à l'école, mais parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de l'expérimenter, ils n'arrivent pas à le comprendre. Je crois que c'est cela le plus grand changement dans la jeunesse française.
À présent, je me tourne vers Alejandra. Donc Alejandra, selon toi, quel est le défi le plus important auquel l'éducation française doit faire face par rapport à la jeunesse?
Oh là là, c'est une affaire assez compliquée, mais vraiment intéressante. À mon avis, le défi le plus important est l'énorme distance qu'il y a entre les professeurs et les étudiants dans leur rapport, puisqu'ils ne se sentent pas du tout identifiés aux professeurs. Il faut prendre en compte que toute interaction humaine est une relation de pouvoir, comme bien le dit Michel Foucault. Mais si dans le cadre de l'enseignement, dans les écoles, la priorité est vraiment de partager des connaissances, il est indispensable de réduire le maximum possible cette distance pour que les étudiants aient les conditions nécessaires pour bien s'exprimer avec la liberté de donner leurs opinions en sachant qu'elles seront entendues et prises en compte par leurs professeurs. Il faudrait alors que les professeurs se rapprochent des étudiants avec un esprit ouvert pour rendre leur rapport plus dynamique et moins éloigné.
Selon toi, Angela, quelles peuvent être les solutions pour résoudre ces problèmes?
Je pense qu'il faut absolument changer le système d'éducation. Michel Serres le dit et le réclame avec force, mais aussi avec beaucoup d'humour et de tendresse dans son texte. Ce système éducatif doit devenir plus ouvert et plus libre. Il est nécessaire que les étudiants aient plus d'autonomie et une opportunité de s'exprimer sans être limités. Aussi, il faudrait leur enseigner comment utiliser toutes les informations qu'ils reçoivent à l'école et comment les mettre en pratique. Le problème de l'individualisation peut se résoudre aussi par un nouveau concept et c'est celui de citoyen. Cela permettra à l'individu de rester libre mais pas égoïste. Chaque jeune personne doit être consciente de sa responsabilité envers la société à laquelle il appartient.
La suite de cet échange francophone intéressant, sympathique du programme Culture Lab sur toutes ces questions d'actualité vous attend sur Canal Académie, sur toutes ces questions actuelles, vous attend sur Canal Académie dans un second volet enregistré comme le premier à Vichy dans les classes du Cavilam. Nous vous y attendons. Canal Académie souhaite adresser tous ses remerciements d'accueil à Vichy aux responsables et formateurs du Cavilam, le directeur Michel Boiron, Bouchane Taplial, chef de projet multimédia, les formateurs Jean-René Bourrel, Christophe Rouge, Hubert Villard et Thierry Hervier à la technique du Cavilam.